Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon vendredi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes à travers cette émission de C'est bon pour la santé sur les ondes de Canal M. Au Canada, on estime que 10 à 30 de la population serait incommodée par des épisodes occasionnels, quand même, de reflux gastrique. Par quoi sont-ils causés et comment les prévenir? J'en parle en deuxième partie d'émission avec notre infirmière en résidence, Jocelyne Gadebois. Mais d'abord, nourrir son enfant. C'est souvent, bien souvent, le premier geste d'un parent. L'enfant vient au monde, on lui donne le biberon, on lui donne le sein. Et pourtant, assez rapidement, l'alimentation de notre enfant, ça peut devenir un souci. Et comme ça vient trois fois par jour, c'est assez répétitif comme souci. Dans son dernier livre « J'aime pas ça, j'en veux encore », la psychologue Nadia Gagné rappelle que manger, c'est un geste qui devrait rester simple et apporte des conseils concrets aux parents qui se posent des questions sur l'alimentation et également les comportements alimentaires de leur enfant. Je vous la présente dans quelques instants. Bonjour Nadia Gagné.
Bonjour.
Dans ce dernier livre, J'aime pas ça, j'en veux encore, coécrit avec la nutritionniste Myriam Géhami, vous présentez vraiment un livre qui est bourré de trucs tout simples, qui sont là pour nous faciliter la vie, qui sont souvent hyper amusants et en même temps qui sont là pour encourager la simplicité. Ça fait du bien, je vous le dis, Nadia Gagné, de lire ce livre-là. Et en même temps, c'est un plaidoyer pour les parents imparfaits. C'est correct oui. d'être imparfait quand on est parent?
C'est nécessaire même. parce que si on était parfait, comment les enfants qui sont en apprentissage constamment pourraient apprendre à bien réagir à leurs erreurs?
Ça serait
une pression inutile pour eux.
Comment on peut faciliter le contact de notre enfant avec la nourriture?
Moi, je pense que la première étape, comme parent, d'abord, c'est de lâcher prise au niveau des quantités. Que l'enfant va consommer de par lui-même, parce que les enfants, de façon innée, savent très bien reconnaître leurs signaux de faim et de rassasiement, mieux que nous, en fait, les adultes qui avons été pollués par les recommandations de nos parents, de nos grands-parents, là, quand ils nous disaient « finis ton assiette, sinon pas de dessert ». Donc, les enfants, normalement, vont nous le dire très clairement, même les tout petits bébés, quand ils ont plus faim, c'est sûr que ça va être par des comportements plus que verbalement, mais ils vont nous le faire savoir assez rapidement. Même chose quand ils ont faim. Donc, le rôle des parents, c'est vraiment d'offrir les aliments, de les offrir dans une assez grande diversité. Mais ensuite, c'est à l'enfant de décider s'il a encore faim ou s'il n'a plus faim. Donc, dans le fond, c'est c'est les bases, en fait, pour donner l'occasion à l'enfant de développer une relation saine à la nourriture et à son corps.
Et si l'enfant refuse toujours, par exemple, les choux de Bruxelles, on fait quoi?
On le respecte dans son choix, le fait qu'il exprime qu'il n'aime pas ça. Nous-mêmes, comme adultes, souvent, il y a des aliments qu'on aime plus ou moins, et c'est correct comme ça. Mais par contre, ce qui serait dommage, ce serait de ne plus jamais l'exposer à cet aliment-là. Donc, idéalement, ce qu'on fait, si on souhaite qu'il en mange, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, on en mange devant lui pour être un bon modèle.
Ouais.
Donc, parce que fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, ça fonctionne pas très bien. Et ensuite, c'est de l'exposer. C'est-à-dire, on en met un ou deux dans son assiette. Puis, on lui dit, écoute, goûte-y, peut-être que tu as changé d'idée, peut-être que ton goût a évolué. Puis, si tu n'aimes pas ça, tu le laisseras là, sans forcer les choses. Donc, il ne faut pas abandonner, parce qu'un enfant peut devoir goûter un aliment 15, 20, 30 fois avant d'éventuellement finir par en apprécier le goût. Donc, il ne faut pas complètement arrêter de lui présenter, mais en même temps, il ne faut pas entrer dans une lutte de pouvoir avec l'enfant par rapport à cet aliment-là.
Nadia Gagné, vous disiez que nous, adultes, on est un petit peu contaminés ou pollués par les phrases qu'on a entendues dans notre enfance par rapport justement aux quantités puis aux rapports de satiété. On a souvent entendu « finis ton assiette »,« finis ton assiette, tu n'auras pas de dessert », par exemple. Comment on fait pour s'éloigner de ces phrases-là que l'on devine peut-être pas nécessairement saines pour l'enfant?
Bien, je pense qu'il est important, c'est d'arrêter de focusser sur la petite bouchée qu'on voudrait donc qu'il mange avant de terminer le repas. Arrêter de focaliser seulement sur bouchée par bouchée ou repas par repas et essayer de se reculer pour mieux voir la forêt et regarder l'alimentation plus globale de l'enfant. C'est-à-dire, dans l'espace d'une semaine ou d'un mois, est-ce qu'il a mangé quand même quelques légumes? Mm-hmm. Ma co-auteure, Myriam, me disait que même si un enfant passait une semaine ou deux semaines sans manger aucun légume, il tomberait pas raide mort, là. Donc, c'est pas si grave que ça. On a tendance, des fois, à dramatiser parce que, comme parents, le premier acte qu'on pose tout de suite après que notre enfant soit né, c'est de l'alimenter. Mm-hmm. Et c'est le besoin le plus de base de l'enfant. Hein. C'est un des besoins primaires de l'enfant. Donc, on se met une pression comme parents de faire en sorte que ce soit à la perfection. Et parfois, ça nous amène à focaliser sur l'alimentation de façon très, très, très détaillée de notre enfant, alors qu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'équilibre de façon plus générale.
Oui, et vous dites même dans le livre, parce qu'on entend souvent parler du guide alimentaire canadien, tout ça, qui justement dit de respecter X portions de fruits et de légumes, mais d'aller un petit peu au-delà de ça, là.
Oui, bien, c'est sûr qu'il faut essayer de s'en approcher. C'est toujours des objectifs hein, qu'on va essayer de donner aux parents, justement pour les guider. Le mot le dit, c'est un guide. Mm-hmm. Mais la police ne va pas débarquer chez nous si on déroge quelques fois par semaine. Donc, dans le fond, c'est de s'en inspirer. Puis aussi d'essayer d'avoir peut-être des règles un peu plus générales, comme par exemple, essayer d'éviter peut-être les aliments sur-industrialisés. Mm-hmm. On donne des trucs dans le livre pour les reconnaître. Donc, ceux qui auraient peut-être plus de 5 ingrédients dans la liste d'ingrédients. Se concentrer sur la périphérie dans une épicerie. Ce qui est en périphérie, c'est les fruits et légumes, les pains, les viandes, les produits laitiers, et se tenir un peu plus loin des allées centrales. Bon, c'est sûr que des fois, on a besoin de farine ou d'huile d'olive ou de choses comme ça, mm-hmm. mais d'essayer de se tenir loin de ces produits-là. Myriam aussi, dans le livre, a donné une partie, a décrit dans une des parties du livre comment essayer d'équilibrer l'assiette. Donc, il y a à peu près un tiers de protéines, que ce soit animales ou végétales, un tiers de fruits et légumes et un tiers de produits céréaliers ou de féculents. Donc, ça donne une bonne idée de base. Puis, à travers ça, bien, on peut rajouter des collations quand l'enfant a faim. Mm-hmm. Mais sans nécessairement tout calculer avec la petite balance ou avec la tâche à mesurer là, pour s'assurer qu'il y a vraiment toutes les bonnes portions. Notre enfant va nous le dire, ses besoins. Il ne se laissera jamais mourir de faim.
Oui. Un autre truc que j'ai trouvé très intéressant, et pourtant c'est évident, mais on n'y pense pas d'entrée de jeu, c'est d'éviter les produits avec des personnages dessus.
Bien, c'est parce que ces produits-là, souvent, visent à attirer l'enfant qui, lui, n'a pas de connaissances encore au niveau de la nutrition. Donc, c'est sûr qu'un aliment sur lequel il y a un personnage va amener l'enfant à le demander à son parent. Donc là, souvent dans une épicerie, on ne veut pas que notre enfant fasse une crise devant tout le monde. On ne veut pas avoir à gérer les crises. Donc, des fois, les parents vont sentir un peu, bon, OK, je vais t'en acheter. Et puis souvent, ce sont des aliments dans lesquels il y a du sucre, beaucoup de sucre, beaucoup de sel. Donc, c'est pas nécessairement qu'il ne faut jamais en acheter, mais il ne faut pas que ça constitue la base de l'alimentation de l'enfant, en fait. Mm-hmm. Donc, une fois de temps en temps, on lui achète une céréale un peu plus sucré, c'est pas la fin du monde, mais il faut aussi lui apprendre à connaître d'autres types de céréales puis d'autres types d'aliments aussi.
Ouais, et vous dites que c'est OK de se permettre une fois par semaine un repas récompense.
Oui, la fameuse pizza du vendredi soir ou les ailes de poulet devant le hockey. c'est pas vraiment grave là, si c'est occasionnel de se permettre ça. Même des fois, ça nous permet d'apprécier ces aliments-là qui sont peut-être un peu diabolisés par les médias ou par les personnes qui nous donnent justement beaucoup, des experts qui nous donnent beaucoup de conseils en nutrition. C'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, mais en même temps, à force de trop diaboliser un aliment, on finit par en avoir de plus en plus envie, je pense. Donc, l'idée, c'est de se le permettre de temps en temps, d'autant que c'est occasionnel, puis d'en profiter quand on se le permet.
Et peut-être que cette approche-là permettra à papa ou maman d'avoir vraiment un moment de qualité avec l'enfant, parce que vous en parlez aussi beaucoup, Nadia Gagné, de ça dans le livre, que manger, oui, c'est avoir des apports nutritionnels et tout ça, mais c'est de passer du temps ensemble aussi.
Manger en famille, c'est très, très, très important. Il y a des études qui ont prouvé que ça améliorait les habitudes alimentaires des enfants. Parce que là, à ce moment-là, ils sont en contact avec des parents qui sont des modèles au niveau de leur façon de s'alimenter. Ça permet aussi, même à l'enfant, ça diminue le degré d'analphabétisme.
Wow.
C'est-à-dire que les enfants qui mangent avec leurs parents, qui ont des moments à table sans écran, vraiment en discussion avec en famille, vont développer plus facilement leur vocabulaire parce qu'ils sont en présence d'adultes qui n'ont pas toujours un langage pour les enfants. Donc, c'est comme si ça les expose à un vocabulaire de plus en plus grand, qui s'approche d'un vocabulaire adulte. Ça permet aux enfants de poser des questions quand papa, maman discutent d'actualité ou de ce qui s'est passé dans leur journée. Bien sûr, il ne faut pas juste parler des problèmes du bureau. Il faut inclure les enfants dans la conversation en tentant de les y intéresser. Mais ça favorise aussi le développement du vocabulaire et évidemment de la cohésion familiale.
Et vous dites même, et c'est un très beau passage ça, mais entre autres, vous dites ça va nourrir aussi, ça va nourrir les parents d'un bon sentiment de compétence parentale.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les parents ont moins de temps à passer avec les enfants. Si on pense au fait que dans la plupart des foyers, les deux parents travaillent à temps plein et qu'il y a beaucoup de familles où les enfants sont en garde partagée, un des seuls moments qui reste dans une journée de semaine pour être avec nos enfants, c'est le moment du repas. Donc, c'est le moment où là, on peut agir en tant que parent, être un bon modèle pour eux, s'informer sur ce qui se passe dans leur journée, être au courant, dans le fond, de leur développement, de s'informer sur leur vécu scolaire, pas juste au niveau des notes qu'ils ont obtenues dans leur dernier examen, mais socialement aussi, ce qui se passe dans leur vie. Et ça nous remet en contact avec notre rôle de parent, justement, parce que des fois, à force de moins voir nos enfants, on peut se sentir dépossédé un petit peu de ce rôle-là, comme si on le déléguait aux professionnels d'éducation.
Oui, oui. Maintenant, comment... Le livre s'adresse aux parents d'enfants, de jeunes enfants, également d'adolescents. Parfois, quand notre enfant a 13, 14 ans, peut-être même avant, on aurait envie qu'il participe peut-être aux tâches de la cuisine, à faire ses lunchs peut-être. Comment on peut l'intéresser à ça?
Moi, je pense que c'est d'abord en lui suggérant de préparer ses recettes préférées ou les aliments qu'il aime. C'est sûr que si il a jamais aimé les choux de Bruxelles puis qu'on lui propose de préparer les recettes de choux de Bruxelles, il va peut-être résister un petit peu. Si on le présente aussi comme une tâche, comme là, il faut que tu participes aux tâches dans la maison, puis c'est pas facile de cuisiner, puis je suis tannée de cuisiner, puis tu vas en faire avec moi, ben c'est moins alléchant que si on lui dit, viens, je vais te montrer comment c'est le fun de cuisiner, puis comment on peut s'amuser à changer des recettes, à les mettre à notre goût et tout ça. Donc, il faut essayer de l'amener vers la cuisine avec des choses qu'on a le goût de faire, quand on a du temps aussi pour les superviser. Parce qu'il ne faut pas penser qu'un enfant de 8-9 ans va être capable de bien manier le rouleau à pâte ou le couteau sans notre aide. Là. Donc, il faut essayer d'avoir de la patience. Il faut choisir des moments où on a le goût aussi de leur apprendre. Parce que si on fait ça une soirée où il y a 2-3 activités parascolaires où il faut aller reconduire les enfants, puis on a un petit peu de ménage à faire, puis une amie proche à contacter par téléphone pour s'informer de ce qui se passe dans sa vie, bien là, tout va se faire dans le stress un peu.
Oui.
Mais ça fait partie du rôle de parent aussi de favoriser le développement d'habiletés culinaires ou de connaissances culinaires chez l'enfant sans présumer qu'à 5 ans, il va nous cuisiner un confit de canard.
Oui, bien sûr. Et de l'amener à l'épicerie, au marché avec nous.
Oui, mais même tout petit, hein, quand ils sont d'âge préscolaire, ça peut être amusant de quand ils sont assis là, dans le panier d'épicerie, de dire ça c'est quoi? Quelle couleur ça a? Où sont les tomates? Lui demander quand il est un peu plus grand puis qu'il marche à côté de nous, d'aller chercher les aliments ou de tenir le petit sac dans lequel on va mettre les fruits et les légumes, de jouer aux devinettes. Devine à quoi je pense, c'est rouge, c'est rond, ah, c'est une pomme. Donc, c'est une bonne façon de montrer qu'on peut s'amuser avec les aliments, puis développer aussi la connaissance, quels sont les différents aliments, dans quelle section ils se retrouvent, pourquoi ils se retrouvent ensemble, pourquoi c'est la même catégorie. Donc, ça développe aussi des connaissances qui peuvent être une culture culinaire, si on veut, là, qui peut être intéressante.
D'autres sources parfois de mécontentement des parents, c'est la tenue à table, c'est-à-dire rester assis, manger la bouche fermée, pas faire de bruit quand on mange, bien tenir la fourchette. Vous dites, il faut quand même pas avoir trop d'attentes, là. Oui, on met des limites, mais on fait des choix dans nos batailles.
Oui, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de règles autour de la table. On n'est pas dans l'armée ou dans un monastère non plus, là. On est en famille. Donc, je pense que c'est de travailler peut-être une attente à la fois. Mm-hmm. Donc, si on se dit, l'enfant, on aimerait qu'il apprenne graduellement à plus se servir de ses ustensiles que de ses doigts, ben là, on travaille cet objectif-là. Mais s'il mange un peu la bouche ouverte, on va le laisser tranquille là-dessus pour le moment. Donc, on y va objectif par objectif. Puis, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'un enfant de 3-4 ans va rester assis pendant un long dîner d'une heure, qui va avoir une durée d'une heure, une heure pendant laquelle les parents veulent discuter, prendre un verre de vin, etc. Après 15-20 minutes, là, l'enfant il a hâte d'aller retrouver ses jouets. Donc, je pense qu'il faut diminuer nos attentes, s'assurer que pendant ces 15 minutes-là, oui, il se comporte relativement bien, mais pour ça, il faut l'intéresser à rester assis à table. Il faut l'amuser, il faut lui parler. Il ne faut pas juste avoir une conversation d'adulte devant lui puis faire comme s'il n'était pas là, dans le fond.
Et en ce qui a trait aux ados, le téléphone intelligent et toutes ces bébelles-là technologiques, on fait comment pour qu'ils s'en départissent pendant l'heure des repas?
Mais premièrement, nous, les parents, il faut s'en départir parce que j'ai vu souvent des parents qui eux-mêmes avaient de la difficulté à décrocher. Ceux qui sont qui ont des grosses carrières et dont le patron peut vouloir transmettre des messages à toute heure du jour, il y en a qui ressentent la pression d'être constamment au bout de leur cellulaire. Donc, faut pour que les ados suivent, cette règle-là, il faut d'abord que les parents le respectent. Et ensuite, bien, je pense que c'est important d'instaurer la règle pendant les moments de repas. On éteint, on ne se laisse pas déranger par les sonneries. Puis après ça, oui, peut-être accorder peut-être plus de liberté. Oui, s'assurer que l'enfant peut peut-être avoir un peu son temps d'écran, mais dire que c'est un moment où c'est important d'être attentif aux autres autour de soi, aux personnes réelles et non aux personnes virtuelles autour de soi. C'est important. Même si ça fait partie de l'éducation. Enfin, mais là, c'est un autre sujet là, par rapport à l'utilisation saine de la technologie dans le fond. C'est de s'assurer que nos ados ont des contacts bien réels avec des amis réels et non pas juste des contacts virtuels par le biais des textos ou des réseaux sociaux.
Mm-hmm. Nadia Gagné, en terminant, votre livre se consacre, entre autres choses, à prévenir les troubles alimentaires chez notre enfant, notre adolescent. Il y a quand même un chapitre à la fin qui en parle et qui parle également, qui met de l'avant une saine image corporelle. Comment on peut tenter de la favoriser chez notre enfant?
Dès que l'enfant vient au monde, il y a toutes sortes de façons dont on peut s'assurer qu'il va développer une relation positive à son corps et à son image. Le simple fait de cajoler l'enfant, de lui faire des câlins, de lui faire faire des sports, des activités physiques dans lesquelles il va ressentir un plaisir de par son corps ou une sensation de maîtrise ou de capacité, un sentiment d'efficacité personnelle parce qu'il maîtrise bien certains mouvements. Déjà là, on le place dans une situation où il y a des chances de développer une relation positive avec son corps. Lui apprendre à respecter son corps. On respecte aussi quand il nous dit qu'il n'a plus faim, quand il nous dit qu'il a faim, y aller avec ce qu'il nous verbalise, en fait. Lui permettre de manger une collation quand il nous dit qu'il a faim, même si c'est 5 minutes avant le souper. Lui permettre d'arrêter de manger quand il nous dit qu'il a plus faim, c'est une façon de lui dire j'ai confiance en ta capacité de reconnaître les signaux de ton corps et je veux que tu respectes ton corps, je veux que tu aimes ton corps. Mm-hmm. C'est déjà une première base à donner dès les premiers mois de la vie.
Mm-hmm. Nadia Gagné, je rappelle, vous êtes psychologue et co-auteur de ce livre « J'aime pas ça, j'en veux encore », c'est publié aux éditions La Presse. Merci d'avoir été là. On glissera aussi votre site www.docteurnadiapsychologue.com sur le nôtre. Et puis, ben, dimanche, c'est le Super Bowl. C'est correct, une fois de temps en temps, de s'asseoir devant la télé.
Il ne faut pas que ça soit sur une base quotidienne, mais oui, de temps en temps, on peut se le permettre, surtout quand c'est en bonne compagnie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Jocelyne Gadebois, bonjour.
Bonjour.
Un sujet que l'on a choisi ensemble aujourd'hui parce que vous me disiez que c'est assez commun, les reflux gastriques, ça touche pas mal de monde.
Ça touche pas mal de monde. Environ 10 à 30 % de la population, semble-t-il.
C'est énorme.
C'est énorme.
Parce que nos habitudes de vie nous mènent vers ça?
Absolument. C'est directement relié aux habitudes de vie. Quand je vais parler de moyens de prévenir le reflux gastro-œsophagien, je vais parler beaucoup d'habitudes de vie.
Okay.
Toutes sortes de trucs au niveau des habitudes de vie.
Peut-être que pour débuter, on peut expliquer c'est quoi le reflux gastrique ou l'autre terme qu'on donne, le reflux gastro-œsophagien, c'est ça?
Œsophagien.
Œsophagien, merci.
L'œsophage. L'œsophage, c'est le conduit qui va de la bouche au début de l'estomac. Et au début de l'estomac, il y a un petit sphincter. Et c'est ce petit sphincter qui est déficient, qui ne ferme pas suffisamment et qui laisse remonter le contenu de l'estomac qui est acide. Et c'est comme ça que le reflux va remonter parfois jusqu'à la bouche, jusqu'à une petite régurgitation, je dirais, de temps en temps.
Ça, c'est l'un des symptômes. Quand on a la sensation que ça brûle, est-ce que c'est un symptôme
aussi?
Oui,
brûlement d'estomac ou reflux gastrique, c'est la même chose.
Bon, ça nous éclaire.
C'est pareil, c'est pareil. Les gens vont dire que j'ai mal à l'estomac, puis ça brûle. Bon, alors ça, c'est la même chose. Alors, c'est essentiellement un problème au niveau de la petite bouche de l'estomac. C'est vraiment ça. Ou une autre raison, c'est une hernie hiatale.
Okay.
Une hernie hiatale, c'est l'estomac qui sort un petit peu de son nid.
Ah oui, OK.
En haut du diaphragme.
Mm-hmm.
Alors, évidemment, ça peut créer des reflux comme tels. Mais ça s'opère, des hernies hiatales.
Donc,
quand ça devient trop problématique.
C'est plus grave.
C'est plus grave, oui, mais c'est moins grave aussi. C'est plus grave à cause de l'impact de la chirurgie, là, entendons-nous. Mais ça se répare.
OK, je comprends.
Ça se répare.
Mm-hmm.
Tandis qu'un reflux gastro-œsophagien, là, c'est vraiment chronique. Ça partira pas quand ça commence.
Ben à moins de changer nos habitudes.
Changer
voilà.
Drastiquement des choses.
Uh-huh.
Voilà.
Comme manger plus lentement.
Ah, c'en est un. Avant d'y arriver, vous allez être surprise des symptômes.
Oui.
Comment on peut les reconnaître?
Ah, il y en a d'autres à part les brûlements.
Absolument.
Okay.
Oui, il y a ce brûlement-là. Ça commence après les repas, disons-le. Et ça peut être en pleine nuit, comme 4 à 6 heures après qu'on a mangé. Alors, ça peut nous empêcher de dormir, vraiment. Alors, c'est une sensation de brûlure derrière le sternum. Puis les médecins vont appeler ça des pyrosis. Ce sont des régurgitations acides qui donnent un goût amer dans la bouche. Une voix enrouée le matin, ça peut être un signe de reflux. Un mal de gorge chronique, de l'asthme survenant la nuit et sans rapport avec une allergie. C'est comme on tousse, puis à un moment donné, là, on s'étouffe. Une toux chronique ou un hoquet fréquent. Ce sont tous des signes que ça peut être causé par le reflux. Des nausées, évidemment. Une mauvaise haleine qui persiste et que ça peut créer même trop d'acide, ça peut créer une perte d'émail sur les dents. Chez les nourrissons, par contre...
Parce que les bébés aussi peuvent être touchés.
Les bébés aussi ont des reflux, mais c'est pas pour la même raison. La raison première, c'est l'immaturité du petit sphincter. C'est au maximum vers 4 mois, puis ça va disparaître tranquillement vers les 6 à 12 mois.
OK.
Alors, ça aussi, si un bébé régurgite trop, il faut que les mamans aillent voir le médecin. Si c'est trop immature puis que le bébé perd du poids, on s'inquiète puis on va voir un médecin.
Parlant de maman, est-ce que les femmes enceintes sont plus à risque?
Absolument. Ce sont les personnes à risque. On va y arriver. Les femmes enceintes en fin de grossesse, le diaphragme pousse, il est remonté, pousse sur l'estomac. Et puis, c'est sûr que à ce moment-là, avec la pression physique, il peut y avoir des régurgitations dans les derniers mois de grossesse.
Mm-hmm.
Mais ce n'est que passager pour les femmes enceintes.
OK.
Ah oh, oui, ça va revenir après l'accouchement. Les personnes obèses ou en surpoids sont à risque. Les personnes âgées de 50 ans et plus, ben, le vieillissement qui va ramollir le sphincter œsophagien. Bon, et puis... c'est ça.
C'est déjà beaucoup.
Je les ai toutes passées. Oui, c'est ça. Je pensais qu'il y avait une liste plus longue que ça, mais non. Alors, comme on voit, on dit les personnes obèses, les personnes âgées de plus de 50 ans.
Mm-hmm.
Alors là, je ne sais pas s'il y a le temps d'aller aux mesures de prévention.
Oui, parce que le temps file tout à fait.
Le tabagisme et l'obésité. Tabagisme et obésité. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit vraiment des mesures de prévention directes. Alors, j'y vais sur les mesures de prévention. Alors... D'abord, on sait que c'est épisodique, ça revient par période, donc on regarde nos habitudes de vie. Aucune étude ne montre clairement que certains aliments les provoquent plus que d'autres, mais les personnes qui font du reflux remarquent pour elles-mêmes qu'il y a des aliments qui leur causent du reflux. Exemple, les boissons gazeuses.
Mm-hmm. On n'est pas si étonnés.
Vraiment. Et puis, le café, le chocolat, mm-hmm. tous des stimulants. Les aliments très gras ou épicés. Les agrumes et leur jus, pour mm-hmm. certaines personnes, oui. Pour d'autres, non. Les tomates, le lait et les oignons. Alors, on veut vraiment s'auto-analyser puis regarder les aliments qui nous dérangent le plus, puis on essaie d'en prendre en plus petite quantité, puis à des moments de la journée, qui plus le matin ou en début d'après-midi qu'en soirée.
Mm-hmm.
Parce que on évite de prendre des repas copieux, des repas trop graisseux, la bonne grosse poutine pleine de sauce, là.
Oui, d'ailleurs, c'était en vedette à la cafétéria aujourd'hui.
On évite surtout de la manger à 8-9 heures le soir.
Oui.
Absolument, parce que là, la digestion et tout ça, ça va arriver. On mange lentement et on prend le temps de mastiquer. Trouvez-vous qu'aujourd'hui, on ne mastique pas nos aliments, on avale tout rond?
Oui, puis on mange devant l'ordinateur rapidement. En terminant, Jocelyne, on traite comment?
Il y a des médicaments qu'on vend sans prescription à la pharmacie. Alors, ces médicaments-là, il y en a un pour contrer l'acidité, Toms, Maalox, ces choses-là. Et les autres, c'est pour empêcher de produire de l'acidité, mm-hmm. Xantax, Pepcid, etc.
Et bien sûr, il est préférable de changer graduellement ses habitudes de vie.
Absolument.
Plutôt que de se tenir là, ces médicaments-là.
Sinon, on va voir son médecin qui va nous prescrire quelque chose qui va vraiment nous soulager.
Jocelyne Gadebois, merci beaucoup. Vous êtes de retour dans 2 semaines. On a déjà un sujet pour vous.
Merci.
Rémière Mozo à la mise en onde de cette émission. Marianne Paquette au micro qui vous remercie d'avoir été là aujourd'hui et tout au long de la semaine. On se retrouve lundi, bien sûr. D'ici là, on est en rediffusion à 17h. Et puis, je vous embrasse. Profitez bien du week-end pour vous reposer. Bye-bye.